Le ministre responsable de l'intégrité des marchés, Robert Poitier, a annoncé ce matin un projet pilote pour accélérer les paiements du gouvernement aux entreprises avec qui il fait affaire. Le gouvernement est un mauvais payeur, imaginez. Il doit des centaines de millions de dollars à des entreprises, notamment, qui œuvrent dans le secteur de la construction. Le ministre Poitier est avec nous. Bonjour, M. Poitier.
Bonjour, M. Lacroix. Bon. Je suis déjà obligé de reprendre votre préambule. C'est pas qu'on est un mauvais payeur,
mais là.
Non, mais pas du tout. Mais en fait, je vous dirais même qu'actuellement, là, ce que l'ensemble des ministères et organismes ont comme statistique, là, c'est entre 30 et 60 jours, de façon générale à 90 % 30 jours, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, c'est un dossier qui est 5 ans en arrière avec la coalition qui ont ressorti des dossiers où, de façon générale, les paiements sont rapides, mais dès qu'il y a, je prends un exemple, un avenant, une problématique dans un dossier, une difficulté ou une insatisfaction d'un côté comme de l'autre d'un travail qui a été exécuté, là, on arrêtait les paiements et on voulait régler la problématique. Et là, parfois, pour des bonnes ou mauvaises raisons, ça s'étirait, et ça mettait en péril des petites entreprises et moyennes entreprises qui ont besoin de liquidité. Donc, un vieux problème, 5 ans en arrière, regroupement de la coalition donc qui regroupait compte et retard de paiement, donc qui regroupait les grands contracteurs, les petits contracteurs, les moyens contracteurs et les sous-contractants. Ça, c'était génial pour nous. Ils nous ont abordé il y a un an et demi en disant, écoutez, pouvez-vous nous aider? On a travaillé ensemble. Ouais. On arrive ce matin au résultat.
OK, mais c'est parce que la coalition, là, c'était tellement sérieux que les entreprises des différents secteurs de construction se sont mis ensemble. Ils ont créé une coalition qui s'appelle Coalition contre les retards de paiement dans la construction.
C'est vrai.
Il devait y en avoir. Alors, ils disent, ils se sont fait faire une étude, en fait, par Raymond Chabot, Grant Thornton, qui disent que les entreprises de l'industrie sont privées de 7,2 milliards de dollars au-delà du délai de paiement normal de 30 jours. Cette somme représente 15 % de l'ensemble des dépenses en construction. Quelque part, il devait y avoir des mauvais paiements.
Mais je venais de vous donner la principale raison. Ouais. C'est principalement dans les cas où il y avait des avenants ou mésententes sur d'un côté comme de l'autre, de la livraison, de la qualité du produit ou d'une difficulté où on a demandé telle chose, on a eu autre chose. Et là, à ce moment-là, le système s'arrêtait. Okay. Et là, quand le système s'arrête, il y a des conséquences majeures à ça. Je l'ai compris. Et le gouvernement l'a compris. Donc, on a décidé de travailler ensemble. Et là, c'est encadré dans le projet de loi 108 qui a été adopté. Alors, à partir de là, ce projet-là, on est premier au Canada à pouvoir fonctionner là-dedans. Et l'élément vraiment important dans ça, parce qu'il y aura encore, évidemment, de la discussion sur des mésententes, mais à ce moment-là, on aura un intervenant expert, donc l'IMAC, donc des ingénieurs, des avocats, des spécialistes, qui va avoir un jugement exécutoire à l'intérieur de 30 jours.
Ouais.
Alors, donc, au lieu de s'en aller devant les tribunaux de façon interminable et à des coûts souvent, évidemment, inévitablement, qui sont assez élevés, compte tenu d'exercice, ben un intervenant expert va trancher et ça sera exécutoire. Après, si vous n'êtes pas content puis vous dites, ben moi, je trouve que c'est pas un bon jugement, ben vous avez toujours le recours juridique, mais dans le 30 jours, si l'intervenant expert dit, vous devez payer, puis je dis n'importe quoi sur le chiffre, mettons 50 000 $ ou 100 000 $ pour les équipements qui avaient été achetés ou les salaires qui ont été payés, ben ça va devoir être payé. Bon. Et ça, je pense que c'est une excellente nouvelle d'avoir un intervenant expert.
Bon, est-ce que c'est vrai que depuis la commission Charbonneau, les délais se sont prolongés parce qu'on est devenu tellement frileux, on avait tellement peur des avenants, on avait tellement peur de se faire avoir, finalement, pour pas utiliser un autre terme, par les entreprises de construction qu'on faisait des doubles, triples, quadruples vérifications, puis ça amenait des retards de paiement.
Bien, honnêtement, je suis obligé de dire que c'est un peu l'inverse. Depuis la commission Charbonneau qui a soulevé cette problématique-là, évidemment, les entrepreneurs étaient contents que ça ait été soulevé, cette problématique-là, parce qu'eux, depuis 5 ans, ils s'étaient créés. Moi, je suis arrivé il y a un an et demi. Mmh. Alors, dès que je suis arrivé, on s'est assis. Je dois vous dire que la première réunion qu'on a eue, je veux dire, il n'y avait pas de place pour ce musée-là beaucoup, là. Je veux dire, ils étaient vraiment préparés avec des arguments solides. Je les ai écoutés, je les ai entendus. Et on s'est assis avec les gens du Conseil du Trésor ensemble. Et à partir de là, ça nous amène à cette solution-là qui a été négociée. Alors, rapidement, ce que ça dit, c'est qu'un organisme public a l'obligation de payer dans les 30 jours après les travaux, qu'un entrepreneur général, lui, a ensuite un délai de 5 jours pour payer ce contractant, parce que ça aussi, ça l'arrivait. Nous, on payait l'entrepreneur général, lui, pour une raison encore bonne ou mauvaise avec le sous-contractant, ne le payait pas. Alors là, ça le place par la loi, c'est-à-dire qu'un entrepreneur général doit, lui, dans les 5 jours qu'il a reçu son chèque, payer le sous-contractant. Et le sous-contractant qui reçoit son chèque, qui lui aussi a sous-contracté, parce que ça arrive, a aussi 5 jours pour payer le sous-traitant, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment une obligation pour tout le monde d'avoir le même pas. Et après ça, ben le mode de règlement, évidemment, okay. Si les gens s'entendent pas, donc s'ils s'entendent pas à l'amiable, ben il y a un intervenant expert qui, lui, dans un délai de 30 jours, va trancher. C'est vraiment une innovation. On est les premiers au Canada à le faire. Je pense que c'est la solution. Ce matin, autant les gens de la coalition que les gens de l'IMAC étaient vraiment très contents de ce règlement-là, et c'est la preuve qu'on est capable de s'entendre quand on s'assoit.
Cette semaine, il y a eu les architectes et également les ingénieurs qui sont sortis en disant écoutez, la nouvelle façon de faire là, du gouvernement, l'imposition du plus bas soumissionnaire qu'on veut mettre en place, là, c'est pas la meilleure idée parce que on ne va pas s'assurer d'avoir les meilleurs projets possibles. Parce qu'on disait, quand on élabore un projet, autant du côté de l'ingénierie que de l'architecture, il faut prendre le temps d'y réfléchir, il faut mettre les heures que ça prend pour en arriver avec le meilleur projet possible. Et la politique du plus bas soumissionnaire, ça ne marche pas en ce sens-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bien, en fait, ce que je réponds à ça, malheureusement, certaines personnes font plus de politique que les politiciens. Il y a un changement réglementaire qui a été déposé pour recevoir l'opinion et les commentaires des ingénieurs et des architectes et de tout le monde. Ça, ça a été déposé dans un processus normal. Et ce processus-là se termine quand, Louis? Demain, le 11 août. Alors, moi, là, on a reçu les critères et ce que les gens ont dit. Et lorsque on entend aujourd'hui des gens qui sont allés médiatiquement dire que nous, ce qu'on veut, c'est le prix seulement, c'est tout à fait faux et inexact. Il y a une boîte à outils qui s'appelle « Qualité seulement avec l'utilisation d'un tarif décrété ». D'ailleurs, on est encore les seuls au Canada à avoir ça. Il faut se demander la question, est-ce que c'est une bonne idée. Ensuite, on a le rapport qualité-prix, qualité minimale suivie du plus bas prix et, dans certains cas, le prix seulement. Alors, il faut faire attention parce que de penser qu'on veut travailler sur le prix seulement, mais on a donné un exemple. Si on décide demain matin de faire un entrepôt carré en ciment pour mettre des palettes de bois où on n'a pas besoin de chauffage, on n'a pas besoin de particularité, ben ce que certains architectes disent, ben c'est nous qui avons décidé de quelle façon vous devriez avoir votre bâtiment. Je m'excuse, c'est l'argent des contribuables. Ouais. L'autre chose qui est inacceptable, Louis, puis je me demandais même si je vous soulignerais, mais d'avoir sorti le dossier de la Concorde dans ce dossier-là, là, c'est vraiment, vraiment inexcusable. Okay, parce que c'est vraiment malheureux. Non, mais c'est faux.
Les ingénieurs parlaient, entre autres, juste pour mettre en contexte, c'est que dans leur communiqué, les ingénieurs disaient qu'on donnait l'exemple du viaduc de la Concorde qui était tombé, il y a eu des décès. Et là, on disait, est-ce qu'on va remettre en question la sécurité des gens en prenant le plus bas soumissionnaire?
C'est terrible. Ouais. Qu'ils aient juste abordé ça, je trouve ça terrible, irrespectueux et tout à fait inexact. À l'époque, quand ça a été construit dans les années 70, ça a été fait selon les règles de l'art de l'époque. Et dans ce dossier-là, on a en plus une commission d'enquête, donc une enquête qui a été faite. Et en 92, qu'est-ce qui a été rénové? C'était la base de la qualité plus. Ouais. Alors, et c'était tarif gouvernemental décrété, un des 4 outils qu'on a dans notre boîte. C'est incroyable que la personne qui a décidé de mettre ça dans la communauté s'est servi du décès de pauvres gens dans un accident terrible. En dehors de ça, moi, je vais juste me replacer et vous dire que c'est le 11 août, c'est demain. Et moi, j'ai toujours écouté, entendu et collaboré avec les gens. Cette façon de travailler et d'intervenir, pour moi, sur la base médiatique, de demander à M. Thérien, puis je l'aime bien, là, du PQ, de sortir ce matin ou hier et de dire, c'est incroyable, on veut pas ça. Bien, vous comprenez, M. Lacroix, qu'on est déjà en campagne électorale et c'est très malheureux. Moi, je vais travailler jusqu'au 1er octobre pour le bien-être des citoyens du Québec. Et nous, on va travailler pour que le gouvernement choisisse, dans certains cas, et je vous donne un exemple, si on veut acheter des crayons, là, on n'est peut-être pas. Puis si on veut juste faire des déplacements dans un bureau, on veut aménager un bureau, un étage, là. Est-ce qu'on a besoin d'un architecte de 25 ans d'expérience pour nous dire que le bureau rentre dans le carré du mur? La vérité, c'est non.
Bon, vous avez mentionné que vous continuez jusqu'au 1er octobre prochain. Après ça, vous devenez président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, c'est ça?
Ah, ça, par exemple, vous savez, j'ai fait une rencontre avec la commissaire à l'éthique.
Bien, je voulais vous amener vers là. C'était en juin, ça.
Ah, j'ai fait cette demande. J'ai reçu la réponse de la commissaire à l'éthique qui dit que j'avais le papier dans ma poche tout le temps, mais là, vous m'attrapez. J'avais le paragraphe qui dit clairement qu'il y a, dans la conclusion, qu'il n'y a absolument aucune problématique à ce que j'occupe ce poste-là. Et elle rappelle évidemment toutes les règles initiales du commissaire à l'éthique. Et elle souligne, et ce sera la fin de ma réponse dans votre question, ouais. Elle souligne que d'ici le 1er octobre, il serait prudent de ne pas commenter ou de discuter de ça. Mais elle n'y voit absolument aucune problématique éthique à ce que j'occupe ce poste-là à la fin des élections, à la fin de mon mandat.
Mais il y a des gens qui vous avaient reproché de vous avoir magasiné une job pendant que vous étiez toujours ministre.
Ben, c'était très ordinaire, pour être bien honnête. Mm. C'était très ordinaire, c'était non justifié, c'était malhabile de dire quelque chose comme ça. Il y a des gens qui, parfois, disent... je vous dirais... en fait, en plus, je vais être bien honnête, le seul journaliste qui a parlé de cette façon-là ne m'a jamais parlé à moi. Alors, s'il l'avait fait, ça aurait pu l'aider, mais il l'a pas fait. Et le document que je vous parlais, que j'ai dans ma poche tout le temps de gauche, il était dans celle de droite. Donc, en conclusion, en résumé, vous pouvez accepter le poste de président-directeur général de la CCAQ après la fin de votre mandat actuel en vous assurant du respect des règles d'après-mandat qui reposent essentiellement sur une vigilance accrue de votre part afin d'identifier les situations particulières qui pourraient soulever des problématiques. C'est ce qu'on fait actuellement. Et sur ce volet-là, il n'y a rien sur la base de l'éthique que j'ai enfreint et j'ai l'assentiment de la commissaire à l'éthique. Alors, je pense que le journaliste qui avait soulevé cette question-là avait le droit de la soulever, mais aurait pu minimalement me parler, ce qu'il n'a pas fait à ce jour. Vous l'avez fait. Merci.
M. Poitty, passez une belle fin d'été.
Vous aussi. Au revoir.
Et puis, on se reparle peut-être à l'automne.
Ben exactement, pourquoi pas.
Au revoir.
Salut bien, bye.
Robert Poitty, qui est le ministre responsable de l'intégrité des marchés.